Alors aujourd'hui, vous savez que la retraite alterne sur les méditations, les instructions et puis quelques développements sur certains points qu'il est bon de connaître ou de redécouvrir. Et celui que j'aborde aujourd'hui, cet après-midi, c'est celui de la nouvelle messe. Donc une question évidemment très importante. On vous a parlé, je pense, de la messe. Et on aborde la question épineuse, la question depuis déjà 1970, ça fait donc 36 ans, 69 exactement, mais enfin appliqué en 70, que le problème se pose et qui a évidemment eu des incidences graves dans la vie de l'Église et dans la tradition, puisque évidemment c'est l'un des points clés sans doute, mais l'un des points, je dis bien l'un des points, qui évidemment nous oppose ou nous paraît nous opposer aux autorités de l'Église, etc. Donc, il est important d'être formé sur cette question d'une façon précise, non pas pour être incollable, mais pour comprendre le combat de la tradition dans cet aspect-là. Pourquoi j'insiste sur cette différenciation? Parce qu'il y en a d'autres, il y a des problèmes doctrinaux qui sont autres que celui de la Nouvelle Messe, mais celui de la Nouvelle Messe les résume, on peut dire, c'est vrai. Et surtout, il est le cœur de notre vie chrétienne, de notre religion catholique, donc quand on y touche, bah, évidemment, il faut réagir et il faut voir si les modifications qui sont apportées peuvent être acceptées. Et pour cela, il ne faut pas être grand théologien, il ne faut pas être prêtre ou évêque pour être capable. Notre catéchisme, notre foi peut nous montrer un certain nombre de choses qui ne vont pas sur certaines réformes, et spécialement celles qui ont eu lieu sur la messe. L'objection courante que l'on entend par rapport à ceux qui critiquent la nouvelle messe, c'est, on dit, bah finalement, oui, on est d'accord que la nouvelle messe est moins bonne que l'ancienne, que celle que l'on dit de Saint Pie V. Je rappelle que Saint Pie V n'a pas inventé la messe qui porte son nom, mais n'a fait que codifier, rendre même éternel presque le canon, la façon de célébrer, qui datait du IVe siècle, tel qu'il la connaissait, lui, au XVIe. Il a fait des toutes petites modifications, il a épuré parce que siècle après siècle était venu s'ajouter un grand nombre de prières supplémentaires, de chacun y mettait son rite un petit peu personnel, et donc il a éliminé tous les rites qui n'avaient pas 200 ans d'âge, si vous voulez, donc ça reportait évidemment à une solidité de tradition. Donc la messe Saint Pie V n'est pas de Saint Pie V, mais elle est de l'Église, et cette messe, donc, on dit effectivement, elle est mieux, mais la nouvelle est bonne. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans l'ancienne, qui sont mieux, etc. Donc, on va examiner cela. On va examiner cette objection et on va voir si elle tient la route. Ce que nous allons montrer, c'est que la nouvelle messe pose de graves problèmes sur la foi catholique. Et qu'une réforme dans un domaine aussi important qu'est le sacrement de l'Eucharistie, la réalisation du sacrement de l'Eucharistie, qui touche donc aux vérités de foi les plus intimes de notre foi, eh bien, ne peut pas nous laisser indifférents si cela fait imploser notre foi catholique. Vous connaissez sans doute cet adage, sous formulation latine, mais je vais le traduire, « lex orandi, lex credendi », c'est-à-dire la loi de la prière va de pair avec la loi de credendi, de la croyance, de la foi, de l'enseignement des vérités. Autrement dit, telle prière, telle liturgie, la liturgie c'est une des formes de la prière, et eh bien du culte, et eh bien... exprime des vérités de foi. Lorsque vous faites une génuflexion en passant devant le Saint-Sacrement, vous faites un geste. Ce geste, ça ne vous pose pas des grandes minutes d'attention pour le faire, vous le faites parce que vous avez été habitué à le faire, vous génouflectez en passant devant le Saint-Sacrement. Pourquoi ? Il n'y a pas de panneau qui vous le dit, mais vous-même, vous croyez en la présence réelle, et vous adorez un instant, par un geste d'humilité, le Dieu qui est devant vous. Bon, c'est un geste. Alors, ce n'est pas un geste liturgique au sens propre, parce que là, c'est personnel, c'est vous qui le faites. Mais vous comprenez que le geste de prière et de mini-adoration que vous faites en un instant exprime une vérité de foi, parce que vous croyez en la présence réelle. Eh bien, dans la messe, ça va être, notamment dans la messe, ça va être cela constamment. Chaque geste, chaque prière, chaque expression liturgique aura une incidence de foi. Elle manifestera une vérité de foi. Et surtout dans la réalisation, bien sûr, du sacrement de l'Eucharistie lui-même. Dans le renouvellement du sacrifice du Vendredi Saint qui est sacramentellement réalisé dans chaque messe. Donc, cet adage, lex orandi, lex credendi, nous rappelle que l'expression, la prière, la forme de prière, les gestes, expriment des vérités de foi. Et si on modifie ces formes, cette expression de la foi par les gestes, par les prières, etc., c'est probablement qu'on modifie ce qu'il y a en face, c'est-à-dire les vérités elles-mêmes. Donc on ne peut pas impunément modifier la liturgie sans modifier les vérités de foi. Alors soit on en rajoute, pourquoi pas, soit on en supprime. Il paraît peu probable qu'on bouleverse tout et puis qu'on soit à la même chose à l'arrivée. Donc le problème, c'est que, évidemment, nous allons le montrer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées et beaucoup de choses qui ont été supprimées, et du coup, beaucoup d'ambiguïté qui laisse à penser que, effectivement, la foi qu'on veut faire passer par ce nouveau rite, eh bien, c'est une autre foi, ou en tout cas, il y a des choses qu'on a voulu mettre en valeur qui ne sont plus la foi catholique parfaite et claire qui était dans l'ancien rite. Quand je dis ancien rite, c'est faux d'ailleurs, puisque c'est un rite qui est toujours vivant, et nous le faisons vivre, et nous en vivons, donc ce n'est pas ancien. Le premier point qu'on pourrait mettre en valeur sur cette réforme liturgique, c'est qu'elle a été, on peut dire, inédite dans l'histoire de l'Église. Alors, rien que d'un point de vue historien, historique, on peut se dire c'est quand même étrange. Nous croyons que dans la religion catholique, c'était la stabilité, la tradition, la transmission ininterrompue des mêmes vérités, des mêmes choses. Et brusquement, nous arrivons dans les années 1969-70, et nous avons, à partir de là, une série de réformes qui vont toucher l'ensemble du culte. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas eu que la messe qui a été modifiée. Il y a eu l'ensemble, la totalité des sacrements. Vous savez qu'on ne baptise plus dans les années, à partir des années 70, comme on baptisait avant les années 70. On n'ordonne plus comme on ordonnait avant. On ne donne plus la confirmation comme on donnait la confirmation. On ne donne plus le sacrement, l'extrême onction comme on donnait l'extrême onction avant. Pourquoi avoir tout changé? Quand on a mis en avant la réforme de la messe, on a dit, il faut que les fidèles participent davantage, qu'ils comprennent davantage. C'était la routine avant, les gens ne comprenaient pas, c'était en latin, etc. Donc il y avait plein de choses, ils ne voyaient pas. Le prêtre avait le dos tourné, c'était évidemment facile de se désintéresser de la messe. À la limite, admettons cet argument qui pourrait évidemment être démoli très facilement. Mais admettons-le comme ça, en hypothèse. Mais pourquoi avoir changé la totalité des sacrements? On ne va pas dire quand même qu'on ne comprenait pas comment célébrer un baptême de la façon dont nous le célébrons nous encore. Le prêtre explique au moment où il baptise, il enseigne aux fidèles, aux enfants, etc. Ça a toujours eu lieu. C'est pas la fraternité Saint-Pélice qui a inventé les commentaires dans la réalisation du baptême. Donc, est-ce qu'il fallait changer le baptême? Extrême onction, mariage aussi, j'ai oublié, ordre, etc. Cet argument ne vaut pas. Donc il y a quelque chose d'autre qui est par derrière. Si on a changé l'ensemble de la liturgie, des sacrements et de la liturgie, de la prière, eh bien il y a quelque chose qui nous fait tiquer, si vous voulez. On se dit, c'est bizarre quand même. Historiquement, dans l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu de transformation aussi radicale dans l'histoire de l'Église. Et quand il n'y a jamais eu, c'est quand même un peu inquiétant. Alors, l'origine historique, entre guillemets, c'est le Concile Vatican II. Hein, n'oubliez pas que la nouvelle messe ne date pas du Concile Vatican II, mais elle en a été programmée, ça c'est vrai. Donc le texte dans lequel on trouve cette annonce des changements, c'est le texte qui s'appelle en latin « Sacro Sanctum Concilium », c'est le texte sur la liturgie, hein, donc l'un des grands textes de Vatican II, qui traite de la liturgie. Et il annonce effectivement, je vous cite quelques petites phrases, « Le Saint-Concile souhaite que là où il en est besoin, on révise entièrement les rites légitimement reconnus, avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition, et qu'on leur rende une nouvelle vitalité en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui. » Bon, cette annonce n'est pas en apparence inquiétante. C'est vrai que, bon, pourquoi pas dépoussiérer tel rite, etc. Bon, je vous cite pas tous les éléments, je les ai sous les yeux, mais peu importe, où il y a l'annonce, les livres liturgiques doivent être révisés, on révisera le rite du baptême des adultes, on révisera le rite du baptême des enfants, le rite de la confirmation sera révisé, les rites et les formules épuisantes. Bon, j'ai toute la liste des annonces dans le texte Sacro Sanctum Concilium. Ça montre bien que c'est annoncé au Concile, mais ça va se réaliser fin des années 60 et toutes les années 70, en gros, sauf erreur, jusqu'en 76 ou à peu près, tout a été réformé. Alors, bon, ça, c'est une nouveauté qui ne peut pas nous laisser indifférents. C'est-à-dire, c'est unique dans l'histoire de l'Église. Et si c'est unique, ce n'est pas normal. Si vous voulez, l'Église, qui s'était toujours donné le droit d'ajouter, de mettre en valeur, de mieux manifester les vérités de foi, mais toujours jamais en rupture, toujours en petite touche, mais jamais, et en conservant ce qui avait été fait avant, là, on a l'impression qu'on met tout à la poubelle et on veut faire quelque chose de nouveau qui soit soi-disant meilleur. Ça n'est pas l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église est un esprit de tradition. Il faut comprendre le mot, c'est un mot latin qui veut dire tradition, qui veut dire transmission. Donc l'Église, elle vit de la transmission. Donc lorsqu'on vous dit brusquement tout ce qui était avant, c'est terminé, maintenant on vous sert autre chose, c'est pas d'Église. Il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement, sans regarder même le contenu, juste ce point-là. Juste cette décision arbitraire de modifier tout radicalement. Vous voyez, cet aspect historique, je fais exprès de prendre le terme historique, doit nous faire réfléchir, doit faire réfléchir les gens qui ne sont pas convaincus ou qui ne connaissent pas. Il faut se dire, l'Église n'a jamais vécu comme cela, n'a jamais agi comme cela. Ça s'est jamais fait. Qui a essayé de le faire? Les hérétiques. Alors ça, oui, ils ont essayé ou ils l'ont fait, bien sûr. Dans les tout premiers siècles, il y en a qui s'inventent des sacrements, il y en a qui en suppriment, il y en a, etc. Et puis la grande réforme, Luther, bien sûr. Donc ça, effectivement, ça s'est fait. Mais qu'est-ce qu'a dit l'Église? Ben, ils sont plus dans l'Église. Donc, attention, quand on change radicalement, quand on se réinvente, quand on supprime les sacrements, Luther a fini par en reconnaître 2, 3 à la rigueur. Ses successeurs, ses concurrents, etc., ont été très variables sur la question. Bon, enfin bon, pourquoi 7, pourquoi 3? Ben, l'Église a toujours dit 7. Ceux qui en résument à 3 sont plus dans l'Église, etc. Vous voyez, ça a toujours été le fait de personnes extérieures à l'Église, dans des sectes, que de dire on change tout, désormais, ça n'est plus comme avant. Ça, c'est un argument qui est fort, même s'il n'est pas théologique. Ça ne touche pas sur un contenu de foi, ce que je vous dis en ce moment. Mais c'est un argument qui doit nous faire tilt, permettez l'expression. Alors avançons cette fois dans les arguments plutôt théologiques. Il y a des erreurs et des ambiguïtés. Une chose gênante comme ça, que je lance pour vous montrer qu'il y a des faits dans cette réforme de la messe qui sont quand même un peu gênants, parce que justement l'Église les avait condamnés. Il y a notamment le fait, qui ne paraît pas le plus important en apparence, de réciter le canon à voix haute. Bon, dans la nouvelle messe, tout est audible. Dans la messe traditionnelle, il y a toute une partie de la messe qui n'est pas audible, que vous pouvez suivre, bien sûr, sur votre missel, ou si vous connaissez les paroles, vous y unir. Mais pourquoi ce silence, pourquoi ce secret? Eh bien parce que la partie la plus sainte, la plus intime, où le prêtre réalise le sacrement, renouvelle le sacrifice de la messe, eh bien, s'adresse à Dieu, se fait dans le respect du silence. Parce que c'est tellement mystérieux que toute façon, c'est pas de le dire tout fort qui va nous le faire comprendre davantage. C'est le cœur de notre foi. Et c'est en même temps un moment de recueillement, bien sûr, pour toutes les âmes qui assistent à cet événement, qui est le renouvellement du sacrifice du Vendredi Saint. Donc il y a forcément, si vous voulez, une solennisation dans ce silence qui est, il faut le reconnaître, largement abîmé par le fait de le mettre tout sur le même plan de parole, de bruit. Alors, au-delà de ça, je vous rappelle une phrase du Concile de Trente, XVIe siècle, qui va être la grande manifestation de la doctrine catholique suite au protestantisme. Alors, vous avez d'un côté, je vais d'abord vous citer l'Institutio Generalis, c'est-à-dire le texte qui présente le nouvel ordo de la messe 1969. La nature des parties présidentielles exige qu'elles soient prononcées clairement et à haute voix et qu'elles soient écoutées attentivement par tous. Bon, voilà la nouvelle consigne, 1969. Concile de Trente, 1545-1563. Si quelqu'un dit que le rite de l'Église romaine par lequel on récite à voix basse le canon et les paroles de la consécration doit être réprouvé, qu'il soit anathème. Fermons la parenthèse. Plus au cœur du problème théologique, le sacrifice propitiatoire. Alors ça, vous en avez sans doute bien sûr entendu parler. Il y a un problème sur ce point précis qui est important puisque c'est évidemment un point de théologie fondamentale. Qu'est-ce que signifie le mot propitiatoire ? Ça signifie que la messe, on dit que la messe est un sacrifice propitiatoire parce que, en tant que c'est un renouvellement du sacrifice de la croix, il y a véritablement, dans son aspect sacramentel, la réalisation d'une satisfaction qui est opérée pour nos péchés. C'est-à-dire, c'est un sacrifice qui est pour remettre, pour payer le péché, les péchés, nos péchés. Et cela se réalise de façon sacramentelle au moment de la messe. C'est-à-dire qu'il y a des grâces qui sont données par la réalisation même du sacrement pour remettre les péchés. De qui ? Ben de ceux qui assistent, de ceux pour qui la messe est célébrée, et puis de l'Église en général. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de frontières. C'est pas parce que le prêtre dit la messe à un endroit que les âmes qui ne sont pas à cet endroit ne peuvent pas obtenir les grâces de cette messe. Donc bien sûr, et il y a aussi les âmes du purgatoire, bien sûr, qui reçoivent. Mais c'est donc un sacrifice propitiatoire. C'est un sacrifice qui est fait pour réparer, pour payer le péché. Et les prières de la messe sont nombreuses, qui expriment, ça nous revoit là à l'ex orandi, l'ex credendi, hein, qui expriment cette vérité. Et dans la nouvelle messe, tous les endroits où cette vérité était exprimée, dans l'ancienne, ont été supprimés. C'est étonnant. Si nous voulons faire comprendre aux gens, même sans leur enseigner, mais juste par le fait qu'ils écoutent ou qu'ils lisent la messe, et qu'ils s'associent, qu'ils s'unissent à la messe, il sera bon qu'ils lisent, qu'ils écoutent, qu'ils entendent que la messe est un sacrifice propitiatoire, puisque c'est un des éléments clés de notre foi catholique, c'est que nous assistons au renouvellement du sacrifice du Vendredi Saint, qui est le sacrifice unique et propitiatoire pour nos péchés de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pourquoi supprimer dans la nouvelle messe tous les endroits où il y avait cette expression ? Est-ce que les fidèles sont incapables de comprendre ce que ça veut dire, un sacrifice propitiatoire ? Parce qu'ils n'ont rien compris à la rédemption, ce qui évidemment est un peu gênant. Et on voit que les prières de l'offertoire, la prière de l'offertoire qui exprime explicitement cela a été supprimée. Les prières du prêtre avant la communion qui expriment cela ont été supprimées. La prière à la Sainte Trinité que le prêtre dit juste avant la bénédiction que le prêtre vous donne à la fin de la messe. Il y a une prière qui est en silence, Placet tibi sanct Trinitas, est une prière où à la fin c'est cite propitiabile, soit propitiatoire. Donc le mot y est aussi là. Bon. Dans ces trois principaux endroits où nous avions l'expression claire de la chose, c'est supprimé. Pourquoi ? Pourquoi ? Dans le canon 2 de la nouvelle messe, vous savez qu'il y avait quatre canons à l'origine, en 69, qui étaient proposés comme une espèce d'option selon les choix que le prêtre faisait ou le fidèle. Et le canon 2, depuis il y en a eu bien plus. Le canon 2, qui est dit de Saint-Hippolyte, Saint-Hippolyte n'a rien à se reprocher dans ce canon, il a simplement eu... Donc Saint-Hippolyte, il faut quand même se rappeler, bon, il a beau être saint, il est mort, il est saint parce qu'il était mort martyr, sinon c'était quand même un antipape, c'est-à-dire un pape qui s'est élevé contre le pape qui était élu. Mais comme il a été persécuté dans le cadre des persécutions ariennes, et on l'a pris pour un catholique, et puis bon, il a le titre... Bon, enfin, peu importe, c'est pas pour diminuer la sainteté de Saint-Hippolyte, qui est martyr, donc je le respecte. Mais en tout cas, les petites prières qu'on a retrouvées de lui ont été réutilisées, il y avait des fragments, si vous voulez, et on a fait une espèce de reconstitution dans les années 50-60, hein, c'est donc Bott, pour faire ce qu'on a appelé le canon de Saint-Hippolyte. Mais il n'y a pas de preuve, enfin il y a même la preuve contraire, on sait qui a fait le canon de Saint-Hippolyte, c'est dans les années 50-60. Et en revanche, Saint-Hippolyte, on n'a jamais eu la preuve que ça a été un canon de messe, les fragments qu'on a retrouvés de lui. Eh bien dans ce canon, qu'est-ce qu'on voit? Donc le canon 2, qui est quand même utilisé, le terme de sacrifice est totalement absent. Donc c'est même pas sacrifice propitiatoire, c'est sacrifice qui est absent. Donc vous avez un rite de messe, le canon 2, qui vous fait abstraction complètement de la notion même de sacrifice. On peut remettre évidemment en doute cela. Le canon 1, il n'y a aucun signe de croix. Là aussi, des gestes qui signifient la sainteté, le rappel de la croix, de l'étroite intimité qu'il y a, bien sûr, entre le sacrifice de la messe et la croix. Le problème, c'est que ces modifications nous ont étrangement rapprochés du protestantisme. Parce que les protestants, ils acceptaient le mot sacrifice. On trouve le mot sacrifice chez Luther. Il n'a pas peur de l'employer. Mais à une condition, c'est qu'il ne soit pas propitiatoire. C'est-à-dire qu'il accepte qu'on parle de sacrifice au moment, au début, où il... Parce que Luther, attention, ça a évolué. Donc il y a le Luther 1, Luther 2, Luther 3, si vous voulez. Donc le Luther 1, qui est encore... qui est en pleine révolte, parle encore de la messe et l'a dit encore. Je rappelle, c'est un prêtre. Mais à la fin de sa vie, il crachera sur la messe de façon tellement abominable qu'on peut même pas en parler. Mais il rejettera le principe même de la messe. Mais au début, au moment où il accepte encore la messe, il dit la messe est un sacrifice, mais pas un sacrifice propitiatoire. Il refuse la notion de renouvellement du sacrifice du Vendredi Saint. Et le problème, c'est qu'il va dire donc la messe est un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. Ce que nous disons aussi, le sacrifice, vous savez, de louange, d'action de grâce, de demande et propitiatoire. Ce sont les quatre fins de la messe. Alors, on a donc brusquement ce malaise qui nous prend, c'est de se dire, c'est pourquoi on a tout supprimé. Et du coup, on ressemble étrangement à la doctrine de Luther, ce qui est quand même gênant quand on se dit catholique. La doctrine catholique a été très nettement, je vous l'ai dit, exprimée dans le Concile de Trente. Et le Concile de Trente, je vous le cite à nouveau, « Si quelqu'un dit que la messe est seulement un sacrifice de louange et d'action de grâce, ou une simple commémoraison du sacrifice accompli sur la croix, ou qu'il n'est utile qu'à ceux qui communient et qu'il ne doit pas être offert pour les vivants et pour les morts, pour les péchés, les peines, les satisfactions et autres nécessités, qu'il soit anathème. » Là aussi, doctrinalement, c'est réglé depuis longtemps. C'est un peu gênant que nous soyons revenus là-dessus dans la nouvelle messe. Donc le caractère propitiatoire n'est pas affirmé. Il n'est pas nié dans la nouvelle messe. Il n'y a aucun endroit où on dit le sacrifice n'est pas propitiatoire. Mais en ne disant plus qu'il l'est, eh bien, on finit par former des fidèles qui ne savent plus qu'il l'est. Et donc, que c'est finalement un acte de souvenir, et non pas pour remettre les péchés, mais pour louer Dieu, pour rendre grâce, etc. La louange et l'action de grâce sont mentionnées dans le nouveau rite, mais pas l'aspect propitiatoire. Le mot transsubstantiation est oui, l'expression de cette transformation, transsubstantiation, nous y reviendrons avec le problème de la présence réelle. Il y a beaucoup de choses qui sont équivoques, ambiguës là-dessus. Donc il y a un refus, si vous voulez, de garder tout ce qui était une expression limpide, même s'il y a des mots compliqués. Il suffit qu'on vous l'ait dit une fois, vous savez ce que ça veut dire. Transsubstantiation, la première fois, ça fait compliqué. Mais une fois qu'on vous a dit que le pain devient le corps, le vin le devient le sang, ça veut dire changer de substance. Bon, ben, ça y est, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de théologie pour comprendre ce mot. Donc, c'est étonnant qu'on ait supprimé ces mots clairs, ces mots, ces réalités, et qu'on les ait remplacés, ou qu'on les ait pas remplacés, mais en tout cas, qu'on se rapproche du protestantisme par là même. Alors, autre grand point, c'est celui de la définition elle-même qui est donnée de la messe. Pour cela, je vais vous donner, parce que ce serait trop long à citer, je vous ai fait le tirage sur papier de la définition qu'on trouve dans le fameux article 7 de l'Institutio Generalis, c'est-à-dire de la présentation générale de la nouvelle messe. Vous aurez sur cette feuille, vous le verrez, deux définitions, celle de 1969, donc la première, et celle qui a été modifiée suite aux contestations justes, théologiques, d'un certain nombre de personnes, dont les cardinaux Taviano Bacci, et il y avait derrière Mgr Lefebvre, le père Gérard des Lauriers aussi, pour certains ça dit quelque chose, qui ont dit, attention là, cette nouvelle messe, elle est d'inspiration protestante, donc c'est quand même un peu gênant, on ne peut pas accepter cette nouvelle messe. Alors il y a eu petites modifications, et on verra lesquelles. Je vous distribue la feuille. C'est important d'avoir avec précision ces éléments, parce que souvent on reste sur une connaissance trop superficielle des problèmes liés à la nouvelle messe. Je le vois bien à l'école, à Saint-Bernard, on fait ça en seconde. C'est important qu'ils connaissent ces choses-là, parce qu'évidemment, familialement, autour d'eux, il y a tout de suite cette discussion, et souvent ils n'ont pas les arguments. Donc il ne faut pas se dire, ça ne nous regarde pas, on n'est pas théologien, donc on suit ou on fait comme on nous a dit de faire. Dans ce domaine-là, c'est coupable. Alors regardons cette première définition. Le repas du Seigneur ou messe est la synaxe sacrée ou assemblée du peuple de Dieu qui se réunit, présidée par le prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi la promesse du Christ s'applique éminemment au rassemblement local de la Sainte Église, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est tiré de saint Matthieu. Alors, voilà la définition de la messe. Si on va faire une petite explication de texte, désolé. Le repas du Seigneur ou messe est. Donc on a bien une définition. Qu'est-ce que c'est? Donc la messe est. La synaxe, synaxe ça veut dire rassemblement, ou assemblée, donc c'est une assemblée du peuple de Dieu qui se réunit pour célébrer. Qui célèbre, c'est de l'analyse grammaticale, le sujet c'est le peuple de Dieu. Alors vous allez dire, oui mais attention c'est présidé par le prêtre, oui. Enfin bon, c'est pas lui qui célèbre, c'est l'assemblée du peuple de Dieu. Quand on préside, quand vous présidez un banquet, c'est pas, il n'y a pas que vous qui mangez, il n'y a pas que vous qui, c'est une simple présidence, comme on dit. Bon, parfois même on dit président d'honneur, comme ça montre que on s'en fiche complètement, mais ça, c'est honorifique. Si on dit préside, ça ne veut pas dire que le prêtre réalise véritablement. Attention, le mot est choisi, hein, c'est présider, ça ne veut pas dire célébrer, au sens strict. Et donc, on fait croire que c'est l'assemblée tout entière qui célèbre la messe. Ce qui est faux, on le redira bien sûr tout à l'heure. Alors donc, on a une définition de la messe. Et on a une notion du prêtre, de présidence du prêtre, qui est complètement équivoque. et qui ressemble étrangement à ce qu'a dit Luther de la question. Là encore, on est choqué de voir que c'est la définition de la messe que Luther prônait. Deuxième partie de cette première définition, c'est pourquoi la promesse du Christ s'applique éminemment au rassemblement local de la Sainte Église, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on vous parle de la messe, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de dire, bon, c'est le sacrifice de la messe, c'est le sacrifice du Vendredi Saint renouvelé, bon, et donc ça apporte, sous les espèces du pain et du vin, le corps, le sang de notre Seigneur. Donc il y a la présence réelle, voilà la première expression qui vous vient, qui découle, lorsque vous définissez la messe, c'est la présence réelle, à partir de la consécration. Donc, très naturellement, habitué à cette définition catholique, vous vous dites, on va me parler, normalement, de la présence réelle de Jésus. Et là, on vous dit, on vous parle d'une présence du Christ. Mais cette présence, tirée de saint Matthieu, la phrase tirée de saint Matthieu, n'a jamais, jamais, jamais voulu signifier la présence réelle. Lorsque notre Seigneur parle à ses apôtres de cela, il parle d'une présence spirituelle qui n'a rien à voir avec la présence réelle, substantielle de notre Seigneur. Lorsque vous priez le chapelet en famille, vous pouvez dire, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis, c'est-à-dire le Christ, est au milieu de vous. Oui, et c'est vrai. C'est très vrai. Il y a une présence spirituelle de Dieu, du Saint-Esprit, qui vient sanctifier ceux qui le prient. C'est tout à fait juste. Mais c'est pas la présence substantielle. Il n'y a pas le corps, le sang de notre Seigneur à côté de vous, parce que vous êtes deux ou trois. Alors, pourquoi avoir mis cette phrase comme étant la continuité d'une définition de la messe ? Ça aussi, c'est choquant, parce qu'on se dit, mais alors finalement, c'est quoi la présence réelle ? Est-ce que c'est simplement, justement, le fait que lorsqu'on prie Dieu, ben oui, Dieu vient avec nous, enfin, et dans notre esprit ? Il n'y a aucune allusion, vous le voyez, au sacrifice propitiatoire. Alors les reproches qui ont été faits, bien sûr, ont été assez forts et suffisamment médiatisés, on pourrait dire, pour qu'il y ait une espèce de remue-ménage parmi les auteurs de la messe, dont Mgr Bumini. Et du coup, ils ont dit, bon, pour faire taire les critiques, on va modifier le paragraphe 7. Bon, imaginez entre parenthèses, là c'est une petite parenthèse, le sérieux d'une réforme qui, se rendant compte que ça ressemble étrangement à la définition de la messe de Luther, vous pourriez trouver les mêmes lignes chez Luther, je tiens à le signaler, hein, se dit, ah ben non, on va quand même, faudrait quand même changer, parce que sinon ça va être trop choquant. Je reviens à l'aspect historique de la réforme, là, il y a aussi une continuité de se dire, il y a un problème dans cette réforme, là, elle est pas, ça vient pas du bon Dieu, il y a une volonté qui n'est pas saine derrière cette réforme, là, qui, et en plus pas très sérieuse, ils ont même mal préparé leur coup, bon. Alors, définition de 70. Allez, on vous change la première. Maintenant, vous ne lisez que la deuxième. Dans la messe ou scène du Seigneur, le peuple de Dieu est uni sous la présence du prêtre qui agit à la place du Christ pour célébrer le mémorial du Seigneur ou sacrifice eucharistique. De sorte que, pour cette réunion locale de la Sainte Église, la promesse du Christ s'applique d'une manière imminente. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En effet, dans la célébration de la messe, au cours de laquelle le sacrifice de la croix est perpétué, le Christ est réellement présent dans l'assemblée même réunie en son nom, dans la personne du ministre, dans ses paroles, et de plus, substantiellement et de façon permanente, sous les espèces eucharistiques. Alors il y en a pour tout le monde, parce que il y a des phrases, on dit, ah ça y est, ouf, on retrouve notre belle définition de la messe, le sacrifice de la croix est perpétué, le Christ est réellement présent, voilà. Mais alors il est présent où ? Dans l'assemblée même, bon, dans la personne du ministre, alors c'est une incarnation ou une transsubstantiation, on ne sait pas, dans ses paroles, et de plus, ah, donc c'était autre chose, de plus, substantiellement et de façon permanente sous les espèces eucharistiques. Alors on ne sait plus où on en est. C'est-à-dire que la notion de présence, il y a un mot quand même qui nous piège, c'est le Christ est réellement présent. Quand on vous dit le Christ est réellement présent, le mot présence réelle vous vient inévitablement à l'esprit, vous pouvez pas dire le contraire. Eh bien, en fait, réellement présent, ça ne veut pas dire présence réelle. Parce que sinon, on a sur le même plan, présent dans l'Assemblée, ça veut dire présence réelle. Réuni dans la personne du ministre, présence réelle, enchanté, dans ses paroles et substantiellement de façon permanente. Vous voyez bien que là, on a quelque chose qui est plus qu'ambigu, qui est équivoque. Même si on vous dit, oui, mais attention, on a bien distingué la présence substantielle. Oui, très bien. Mais alors pourquoi faire ce grand mélange de mots réellement présents? En quoi c'est réellement présent dans les paroles, réellement présent dans le ministre? Ça ne va plus, là. On n'est plus dans les termes clairs qu'avait la messe de toujours. Et même s'il y a eu des ajouts qui sont plutôt sympathiques, le reste, l'essentiel est toujours le même. Reprenez le début. Le peuple de Dieu est uni sous la présence du prêtre. C'est pareil qu'au début, que la première. Le prêtre qui agit à la place du Christ, très bien. Alors on dit in persona Christi, le prêtre, l'autre Christ, etc. Mais faites sauter cette petite proposition relative. Sous la présence, je rappelle une proposition relative, elle vient compléter un renseignement, elle donne un renseignement supplémentaire, mais elle n'est pas obligatoire. Bien. C'est vrai que il y a le professeur qui résurgit. Alors, la présence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. Et là, je vous demande la même analyse. Qui célèbre le mémorial? Le peuple de Dieu, uni sous la présence du prêtre. Je n'exclus pas le prêtre, mais c'est le peuple de Dieu, uni, donc mis sous la houlette, on va prendre l'image du berger, c'est d'actualité, eh bien, pour célébrer. Mais le berger, c'est pas lui qui célèbre, c'est d'abord et avant tout le peuple réuni, le peuple de Dieu. Donc nous n'inventons pas, c'est pour ça que je vous donne les textes, hein, c'est plus parlant, nous n'inventons pas lorsque nous disons qu'il y a un problème grave sur la fonction du prêtre. Et là, je voudrais développer un petit peu. Je vous renvoie néanmoins, pour vous aider à approfondir cette question, nous n'avons pas beaucoup de temps, à Pie XII, son encyclique « Mediator Dei et hominum » qui date de 1947, et j'en lis un extrait, je vous invite à lire, c'est une assez grosse encyclique, mais très facile à lire, elle est longue, mais elle est facile. Il y en a, il rappelle la condamnation par le Concile de Trente d'une erreur, je cite. Il y en a en effet, vénérable frère, des gens, qui, se rapprochant d'erreurs jadis condamnées, enseignent aujourd'hui que dans le Nouveau Testament, le mot sacerdoce désigne uniquement les prérogatives de quiconque a été purifié dans le bain sacré du baptême. De même, disent-ils, le précepte de faire ce qu'il avait fait, donné par Jésus-Christ à ses apôtres durant la dernière scène, vise directement toute l'Église des chrétiens, et c'est par conséquent plus tard seulement qu'on en est arrivé au sacerdoce hiérarchique. C'est pourquoi ils prétendent que le peuple jouit d'un véritable pouvoir sacerdotal et que le prêtre agit seulement comme un fonctionnaire délégué par la communauté. À cause de cela, ils estiment que le sacrifice eucharistique est, au sens propre, une concélébration et que les prêtres devraient concélébrer avec le peuple présent plutôt que d'offrir le sacrifice, en particulier en l'absence du peuple. Donc c'est Pie XII qui vous parle, en 1947, c'est quand même pas si vieux que ça, et il nous rappelle ces choses, bien sûr, condamnées. Dans la nouvelle définition, nous avons l'expression claire que c'est le peuple qui célèbre le mémorial du Seigneur. Or, c'est faux. Vous le savez, la célébration de l'Eucharistie, elle est propre d'abord au Christ. Mais le Christ, par le prêtre, qui agit au nom du Christ. Ça ne peut pas être le peuple qui agisse dans la messe. Parce que le peuple, aussi saint soit-il, n'est pas victime du sacrifice, n'est pas première victime du sacrifice. Et je dirais même, ça, on pourrait exagérer un petit peu, le prêtre lui-même agit, ne peut pas agir en sa personne, ça n'aurait pas de sens. Il agit in persona Christi, en la personne du Christ, à la place du Christ. Quand on dit à la place, c'est pas que le Christ laisse faire le prêtre, c'est le Christ qui agit dans le prêtre. Et on pourrait dire que le prêtre, en faisant les gestes, en donnant sa voix aux paroles de la consécration, est agi par Jésus-Christ. Même si la formule n'est pas très élégante, elle est claire. Le Christ agit dans le prêtre est agi par le Christ. Et c'est lui qui agit seul, le Christ, dans le prêtre, par le prêtre. Alors, il y a un point, donc, il y a une erreur qui est grave et qui, de façon étonnante, nous la retrouvons intacte, enfin, intégralement, chez Luther. Chez Luther qui vous dit, c'est la hiérarchie sacerdotale, c'est une invention. Et il n'y a pas de sacerdoce, tout le monde est prêtre. Parce que tout le monde a été sanctifié par le baptême. C'est exactement ce que rappelait Pie XII. Donc ce n'est pas le peuple qui célèbre, c'est le prêtre seul. Rappelons quand même ce qu'est le sacerdoce du prêtre, parce que ça vous montre la différence fondamentale qu'il y a. On peut parler, on le verra tout de suite après, l'expression est chez Saint-Pierre, d'une forme de sacerdoce des fidèles. Mais attention, le mot est ambigu, donc il faut le clarifier. Le sacerdoce du prêtre, qu'est-ce que c'est? En quoi consiste-t-il? Il consiste en la participation à la grâce d'union de notre Seigneur. La grâce d'union de notre Seigneur, c'est cette grâce qu'il obtient du fait de l'union de la nature divine à la nature humaine, en la personne du Verbe. Vous savez que dans le Christ, il y a deux natures, et une seule personne, qui est la deuxième de la Sainte Trinité. Eh bien, cela lui donne évidemment une grâce unique. Même la Sainte Vierge n'avait pas cette grâce d'union qui est propre au Christ et uniquement à lui. Et ça lui donne, donc le prêtre, lorsqu'il est ordonné prêtre, l'homme, lorsqu'il est ordonné prêtre, reçoit une participation à cette grâce d'union. C'est énorme, c'est incroyable même. Mais c'est cela qui lui permet d'avoir le pouvoir de réaliser ce qu'il fait au moment de la messe ou au moment de l'absolution, et dans tous ses actes, bien sûr, de prêtre. Alors, les fidèles, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils ont, par leur baptême, et donc le fait qu'ils sont revêtus de la grâce, ils sont dans la grâce de Dieu, eh bien, ils ont ce pouvoir de participer au culte exercé, célébré par l'Église. Puisqu'ils sont membres de l'Église, ils vont participer, ils vont pouvoir recevoir les autres sacrements, et ils vont pouvoir s'unir au sacrifice de l'Église. Et cette union dans la messe s'opère au moment de l'offertoire. C'est symbolisé, là encore, un geste, la petite goutte d'eau qui est mise par le prêtre dans le calice, où il n'y a pour l'instant que du vin, et qui symbolise justement cette union des fidèles qui vont être noyés, on pourrait dire, dans le sang de notre Seigneur, et qui vont quand même offrir, unir leur personne au sacrifice unique de notre Seigneur. Donc le terme de sacerdoce qui est appliqué aux fidèles, c'est une image pour nous aider à comprendre que les fidèles doivent s'offrir eux aussi dans le sacrifice de la messe, mais d'une façon qui n'a rien à voir avec celle que le prêtre seul réalise. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je recite encore Pie XII, « Le peuple offre en même temps que le prêtre, parce qu'il unit ses vœux de louange, d'impétration, c'est-à-dire de demande, d'expiation et d'action de grâce, aux vœux et intentions mentales du prêtre, et même du souverain prêtre, pour qu'il les présente à Dieu, ses offrandes, dans le rite extérieur même du prêtre qui offre la victime. » Donc voilà un petit peu ce qu'il faut bien rappeler pour ne pas confondre, comme l'a fait Luther, le sacerdoce hiérarchique, le sacrement de l'ordre, qui donne un certain pouvoir au prêtre, et ce qu'on appelle, de façon analogique, le sacerdoce des fidèles, mais qui est le fait de pouvoir faire des actes du culte, mais du culte spirituel, et non pas du culte du sacrement de l'Eucharistie. Bon, il faudrait développer cela, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour être plus clair éventuellement. Donc, il y a une conséquence à cela, c'est que on a évidemment, si on ne respecte plus la notion de présence réelle, si on supprime la notion de sacrifice, si on ne respecte plus la notion de présence réelle, et si c'est ambigu, si on a confondu le prêtre et les laïcs, Il y a une conséquence qu'il est quand même bon de rappeler, c'est que non seulement on ne sait plus ce que c'est que la messe, mais ça, on l'a compris, mais c'est que on a une conception protestante qui va s'imposer, qu'on le veuille ou non. Le catholique assistant régulièrement à cette messe, eh bien, va se retrouver inévitablement protestantisé, qu'il le veuille ou non, puisque les vérités catholiques ne lui sont plus visibles ou ne sont plus exprimées par les mots. Donc, c'est inévitable, et la preuve, c'est l'histoire des 40 dernières années, si jamais on en doutait. Vous connaissez sans doute la critique qui a été faite, je l'ai citée sans donner son nom, c'est le bref examen critique du Nouvel Ordo en 69, j'ai fait allusion mais j'ai pas donné ce titre, par les cardinaux Ottaviani et Bacci. Ce texte qui a fait une petite bombe, qui a provoqué la deuxième mouture du paragraphe 7, était en 69, la messe n'était pas encore en application. Donc les points qui étaient montrés du doigt étaient extrêmement importants, parce que c'était pas dans telle église on a été excessif, on a fait n'importe quoi, on n'a pas suivi les règles, c'était pas encore en application. Donc les jugements que je vous donne, c'est indépendamment des excès qui ont été évidemment très nombreux, malheureusement, dans l'usage de cette nouvelle messe. Mais même s'il n'y a pas d'excès, il faut bien comprendre que c'est foncièrement vicié par des principes qui risquent et qui ont fait perdre la foi. Pourquoi il y a eu cette perte monumentale de pratiques religieuses? Qu'on ne nous dise pas, c'est parce que c'est l'argument qui est sorti depuis 40 ans. Alors évidemment, ça commence à s'user, mais c'est parce que les fidèles se sont allés à la messe de façon machinale et routinière. Les hommes y allaient pour surveiller leurs femmes, etc. Enfin, on a tout eu, c'est l'authentique que je vous donne. Moi, je veux bien que maintenant, ce soit des vrais, des purs et des durs qui soient restés. Seulement, on disait ça dans les années 70. Alors, comme entre 70 et 2006, il y a encore eu de la perte, ça veut dire que en 70, il y avait encore des semi-durs, des semi-purs. Et heureusement, ils sont partis, donc maintenant, il n'y a plus qu'une personne par... il n'y a plus grand monde à la messe. On est quand même à 7% de pratiques religieuses en France, dans un pays qui est catholique. Pratiques religieuses hebdomadaires. Donc on est quand même dans une perte de la foi. Et qu'on dise pas non plus, c'est la société qui a évolué. C'est au contraire. C'est parce que la messe, justement, a fait perdre la foi que la société a évolué. Ne l'oublions pas. Bon, mais ça, c'est un autre dossier. Alors... une protestantisation, ça c'est sûr, et en plus, et ça c'est grave, un manque de respect envers l'Eucharistie. On ne se confesse pas assez avant d'aller à ces messes modernes. La confession a été décriée, mais non, c'est pas des péchés, etc. Enfin, nous savons bien, par le retour, vous savez sans doute vous-même, parce que beaucoup d'entre vous ont été à cette messe moderne, vous savez ce qu'il en est. Donc, je vais vite. Maintenant... une autre conséquence qui est grave, c'est que on se rend compte que on ne sait plus ce que c'est que la messe et on ne sait plus ce qu'est le sacrifice. On n'assiste plus à un sacrifice, on assiste à ce repas, cette table qui a été mise, etc. J'y reviendrai rapidement. Autre point important, c'est que ces prières ont été fabriquées. C'est une innovation sans précédent. Nous n'avons jamais eu, là je reviens un petit peu, mais c'est sous un autre aspect, toutes ces prières ont été fabriquées par des hommes du XXe siècle. Et ça, c'est quand même étonnant. Alors, oui, l'Église avait ajouté des choses, des préfaces, je ne parle pas du calendrier des saints, qui évidemment est enrichi au cours des siècles, mais même dans les prières, etc. Mais on gardait toujours ce qu'il y avait d'avance, c'était cumulatif. Et là, on a inventé, on a fabriqué, on vous a découpé du Saint-Hippolyte, et puis on vous a fabriqué un canon de dit Saint-Hippolyte. Ça paraît incroyable quand on le revoit comme ça, avec un recul, ne serait-ce qu'historique. Et puis surtout, on a l'exemple de l'offertoire. On a explosé l'offertoire, on l'a remplacé par une prière de bénédiction des dons, en empruntant une prière à un bénédicité juif. C'est quand même surprenant. De donner un mot un peu faible. L'offertoire, on a dit, non, ça sert à rien parce que c'est déjà les prières, en fait, qui parlent, elles annoncent déjà la consécration, donc c'est pas utile. Elles n'annoncent pas la consécration, elles font comme un doublé de la consécration. Pas du tout. L'offertoire exprime ce qui ne va pas pouvoir être exprimé au moment de la consécration. La consécration, c'est la réalisation du sacrifice. C'est pas à ce moment-là qu'on dit ce que fait le sacrifice. On réalise le sacrifice. Il n'est plus temps de dire ce qui va se passer. Or, l'offertoire, justement, c'est une prière. L'hostie sainte sans tâche, c'est déjà Jésus, même si sur la patène que le prêtre élève, ça n'est pas encore Jésus, bien sûr. Mais il exprime comme si c'était déjà Jésus pour bien montrer ce que va faire ce sacrifice qui va être réalisé à la consécration. Eh bien, il est offert, oui, pour mes péchés, dit le prêtre, pour mes offenses sans nombre, pour le salut des vivants, pour les défunts, etc. Je résume la prière d'offertoire. Et ça montre que c'est un sacrifice propitiatoire, et qui est offert donc pour les vivants et pour les défunts. Tout ça a été balayé et remplacé par une prière où on bénit le pain et le travail des hommes, le fruit du travail des hommes. Comment peut-on imaginer que quelque chose d'humain puisse être agréable à Dieu en soi, au moment du sacrifice de la messe? Seul notre Seigneur Jésus-Christ pouvait être agréable à Dieu pour payer nos péchés. Ce n'est pas du pain ou du vin ou d'autres choses, puisque maintenant, évidemment, on apporte plein de choses, qui puissent être agréables en sacrifice à Dieu. Et puis surtout, cet emprunt, une prière juive, on se demande ce qu'elle vient faire là. Donc l'exemple de l'offertoire. Pour terminer, je voudrais aussi rajouter un point sur le nouvel esprit que diffuse cette nouvelle messe. On revient inévitablement à ce lex orandi, lex credendi. Vous l'avez compris, la foi est mise en danger, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne sait plus ce qu'est la messe, on ne sait plus ce qu'est le sacerdoce, et on ne sait plus ce qu'est la présence réelle. Ça fait beaucoup pour le même rite. Deuxième chose, on arrive à une désacralisation du cœur même de la liturgie, d'abord par la perte du silence. Tous les gens qui retrouvent ou qui découvrent la messe traditionnelle, la première chose qu'ils nous disent, c'est « là, c'est plus priant ». Vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être même vécu, certainement. C'est plus priant. On n'a peut-être pas compris, c'est vrai, ce qui se passait, on a entendu, c'est en latin, etc., peu importe, mais c'est plus priant. Et ce témoignage, tous les prêtres, nous l'avons. Et nous ne l'avons pas qu'en un exemplaire. Père du silence, père de sacralisation de cet instant suprême qui est l'union au sacrifice du vendredi saint. Le remplacement de l'autel par une table, j'ai pas parlé des détails, vous voyez que j'étais que dans les grandes lignes faute de temps, mais pourquoi une table et non plus un autel? Pourquoi la suppression de la pierre d'autel? Vous savez que dans n'importe quel autel, nous avons une pierre d'autel. C'est pas forcément que tout l'autel est en pierre, mais il y a au moins une pierre qui a été consacrée, dans laquelle il y a des reliques de martyrs, pour bien rappeler que c'est dans le sacrifice, dans la mort, dans le martyr qui est l'union au sacrifice du Christ, que sur laquelle se réalise cela. Et non pas une table de repas. Et là encore, avec la suppression de la pierre, on a évacué l'idée de sacrifice. Si c'est une table, ben c'est convivial, comme on dit. C'est-à-dire, c'est un repas, c'est comme quand on se réunit entre amis pour fêter quelque chose. Et cet aspect festif a été mis en avant et a été retiré le sacrifice. Pourquoi? La position du prêtre, bien sûr, la messe face au peuple, non seulement elle n'invite pas au recueillement pour le prêtre, ni pour les fidèles qui voient tout ce qu'il fait et sans le comprendre forcément. Et j'imagine très bien, je ne fais qu'imaginer parce que je n'ai pas célébré la nouvelle messe, heureusement, mais que c'est comme si je célébrais là devant vous. Tout ce que je fais, je vous vois en même temps. C'est bête comme détail, mais ça n'aide pas à s'unir, à offrir au Christ, au Père. Parce que n'oubliez pas que le sacrifice, pourquoi on est tous dans le même sens? Parce qu'on s'adresse tous à la même personne, à la Trinité. Faut pas l'oublier. Cette messe qui se l'impression du prêtre avec les fidèles, alors c'est convivial, c'est sympathique, on se fait des sourires éventuellement, mais il n'empêche qu'on a perdu complètement le sens que la messe était offerte à Dieu. Évidemment. La distribution de l'Eucharistie par les fidèles, la communion dans la main, tout ça, c'est une perte de la sacralisation, bien sûr, de cela. Deuxième grand point, à part la perte de la désacralisation, c'est la perte de l'esprit de sacrifice. Et là, il y a un point qu'il faut rappeler quand même, c'est notamment ce changement dans les oraisons de la messe, qui n'enseigne plus le sacrifice, qui n'enseigne plus le mépris des choses de ce monde. Et là, il y a toute une étude qui a été faite par, j'oublie son nom, Don Guillou, qui a été ici un temps, d'ailleurs, il est mort, hein, un moine qui a fait toute une étude, il a étudié toutes les oraisons du nouveau rite. Et il a vu, c'est quantitatif, qu'à chaque fois qu'il y avait sacrifice, mépriser les choses de ce monde, aimer les choses du ciel, mépriser les choses, ça arrive très souvent dans les oraisons, c'était supprimé. Donc on veut faire passer un nouvel état d'esprit, où le sacrifice n'est plus là. Et là, ça rappelle étrangement Luther qui nous dit « Non, non, pas d'œuvre, pas de mérite, pas de sacrifice, tout ça c'est présomptueux de la part de l'homme. » C'est quand même étonnant. Plus de combats spirituels, plus d'ennemis de l'Église. Tout ça, je pourrais le développer, j'ai pas le temps. Hein, donc, mais c'est facile à trouver. La perte du sens de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. On a même changé la date, ce qui n'est pas innocent. Nous avons la fête du Christ-Roi, nous, fin octobre, et non pas fin novembre, qui est la fin de l'année liturgique. En le mettant fin novembre, ils l'ont mis au dernier dimanche, après la Pentecôte, donc juste avant l'Avent, on fait croire que la notion de règne du Christ, en fait, c'est la fin des temps. Donc il n'y a pas besoin de parler du Christ-Roi, roi des nations, roi des familles, roi des institutions. Ça ne se pose plus, ça. C'était bon en 1925, au temps de Pie XI, puisque c'est lui qui a institué cette fête. Alors on comprend que la perte de cette théologie de la messe et du sacerdoce entraîne la chute des vocations. Comment un jeune peut être prêt à donner sa vie en sacrifice si jamais à la messe on lui montre que c'est un sacrifice, si jamais dans les textes on lui montre qu'il faut se renoncer, prendre sa croix, suivre notre Seigneur, donner la vie du Christ aux âmes, etc. C'est aussi cela la conséquence de la nouvelle messe. C'est pas un secret, faire une conclusion, tirer une conclusion de quelque chose un effet d'une cause qui serait autre. C'est bien un des effets directs, cette chute du nombre de vocations. Pourquoi? Mais parce que nous, proportionnellement, même si c'est pas des grands chiffres, eh bien, proportionnellement, nous avons beaucoup plus de vocations que dans la messe nouvelle. C'est évident. Même si c'est fragile, même si ça peut diminuer, ça peut disparaître, ça peut se réduire. Si nous-mêmes, nous ne vivons pas dans l'esprit du sacrifice, il n'y a rien de garanti dans ce domaine. En revanche, donc, on le comprend bien. Le prêtre ne sait plus ce que c'est qu'un prêtre. Le candidat ne peut pas savoir ce que c'est qu'un prêtre et ne peut pas être conquis. Si c'est pour devenir responsable de 20 paroisses, donc un gestionnaire, bon, il est peut-être bon d'être gestionnaire dans un autre métier. Si on n'a pas compris ce qu'était la messe, et on n'a pas envie surtout de renoncer au mariage, et d'avoir tous les inconvénients du célibat, sans avoir compris surnaturellement le don que nous faisions de notre vie. Ça aussi, c'est un point qui explique la chute des vocations. Donc la messe n'enseigne plus le combat, la messe fait perdre les vocations, c'est sûr. En conclusion, je voudrais redonner quelques règles. Je crois que vous avez compris, et si c'est pas fait, je vous incite à lire. Ce n'est pas une publicité. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait un bel éventail de livres. Je me suis dit, mince, quand je vais parler de la nouvelle messe qui était prévue, je veux dire, ils vont dire, oui, en fait, ils vendent le bouquin. Je vous incite néanmoins à l'avoir. Parce que je m'en suis servi un petit peu, il y a des passages que je ne vous ai pas cités parce que je n'ai pas eu le temps, mais pour clarifier les choses, vous avez la deuxième partie du livre de Mgr Lefebvre, réuni par l'abbé Troidec, des textes de toutes les années de Mgr Lefebvre, entre 70 et, enfin 75 en gros, et 80, 89, 90, eh bien, ça vous éclairera plus encore, ça complétera éventuellement. Donc, formez-vous, ça c'est le premier point. Deuxième point, faut-il aller à la nouvelle messe? Eh bien non, parce que d'abord la messe ancienne, je le précise, n'a jamais été abolie et maintenant c'est public, cette affirmation, c'est-à-dire que pendant longtemps on nous a fait croire que ça avait été aboli, mais maintenant on l'avoue en haut lieu, hein, tous les cardinaux maintenant, qu'on dit conservateurs, etc., le disent, le redisent. Et en 86, le pape Jean-Paul II avait réuni 9 cardinaux pour demander, alors qu'est-ce qu'il en est juridiquement, etc., est-ce que la messe dite de Saint-Bizien a été abolie? Réponse plus que majoritaire, non. Je crois que c'est 8 sur 9 qui en dit non. Elle n'a pas été abolie. Mais ça n'a pas été publié en 86. On l'a su par le cardinal Stickler, qui l'a publié dans une interview aux États-Unis en 95, je crois. Donc on a eu un grand silence pour nous faire croire que... Et du coup, les gens, par obéissance, ont dit, non, si on n'a pas le droit d'aller à la messe traditionnelle, on ne peut pas... On peut pas désobéir, donc on va à la messe nouvelle, même si ça nous plaît pas, même si c'est pas priant, etc. Une loi qui est bancale, une loi qui est mauvaise, ne peut pas obliger. Et une loi qui vous fait perdre la foi ne peut pas vous obliger. Ça, c'est un principe de l'Église, de la loi de l'Église, et même de la loi naturelle. Une loi mauvaise ne peut pas obliger. Donc nous avons un devoir de garder la foi, parce que nous serons jugés sur notre foi et nos œuvres à notre mort. Et nous ne pourrons pas dire facilement, en tout cas si on sait, et maintenant vous savez, que, je ne savais pas, on m'avait dit que, etc., donc j'y allais. Et donc j'ai perdu la foi. Oui, mais là, c'est de notre faute si nous perdons la foi. Or nous savons que là, c'est une source de perte de foi, et on n'a pas le droit de mettre en danger sa foi. La messe n'a jamais été abolie. Et enfin, donc, le seul cas où on peut éventuellement assister à ces messes, c'est se dire, il y a eu un enterrement, je ne peux pas ne pas y aller, ça serait choquant pour tout le monde, éventuellement. Mais ne pas participer à ces messes, c'est la meilleure façon de garder la foi et d'entretenir tout ce que je vous ai dit, cette théologie indispensable pour cela. Un témoignage pour achever... C'est celui que vous connaissez peut-être de Max Turian, qui est un de ceux qui ont fondé Thésée, donc la communauté œcuménique de Thésée, où il y a des protestants et des catholiques qui se retrouvent. Il y a eu le père, le frère Roger, qui est mort l'été dernier, là, de façon très dramatique, est assassiné. Donc Max Turian, c'est un autre, qui était en même temps un des pasteurs qui a été présent, j'ai oublié de le dire, parmi les 6 pasteurs qui ont été présents dans l'élaboration de la nouvelle messe. Tout ce que je vous ai dit, évidemment, sur Luther, a sa source dans le fait qu'il y avait 6 conseillers techniques qui étaient des pasteurs protestants, dont Max Turian. Que dit-il en 1969, publié le 30 mai dans La Croix? Le nouvel ordre de la messe, le nouvel ordo. Quelles que soient ses imperfections relatives dues au poids de la collégialité et de l'universalité, est un exemple de ce souci fécond d'unité ouverte et de fidélité dynamique, de véritable catholicité. Un des fruits en sera peut-être que des communautés non catholiques pourront célébrer la Sainte Cène avec les mêmes prières que l'Église catholique. Point. Théologiquement, c'est possible. Théologiquement, c'est possible. Donc, on a bien l'aveu en 1969, c'est-à-dire au moment même, j'ai oublié de donner la date, mais la nouvelle messe est publiée en avril 69. Il écrit cela dans la croix le 30 mai 69. Donc, il n'y a pas encore eu la nouvelle messe dans les chapelles, dans les églises. Il n'y a pas encore eu d'excès, de choses comme ça. Elle n'est pas encore en service. Théologiquement, c'est possible. Eh bien non, si un protestant dit que théologiquement il est possible qu'un non-catholique célèbre la nouvelle messe, c'est que la nouvelle messe n'est plus catholique. Parce que jusqu'à présent, il y avait une opposition, et c'était bien, depuis Luther, il y avait une incompatibilité entre la scène protestante et la messe catholique. Si maintenant les deux peuvent célébrer avec les mêmes prières, c'est qu'il y en a une qui a changé, et ce ne sont pas les protestants qui se sont convertis. Deuxième et dernier témoignage, Julien Green, qui est un écrivain que vous connaissez peut-être, qui est un converti de l'anglicanisme et qui a écrit dans son livre qui s'appelle « Il est mort maintenant », « Ce qu'il faut d'amour à l'homme », publié en 1978, il donne une anecdote. Un jour que j'étais à la campagne avec ma sœur Anne, nous assistâmes à une messe télévisée, le curé du village étant absent ce dimanche-là. Donc il est catholique au moment où il raconte l'histoire. Il n'a pas de messe, il se dit « je vais regarder à la télé ». Je me souviens que tournant les pages de mon missel français, j'essayais de reconnaître sur l'écran quelque chose qui ressembla à une messe. En vain. Ce que je reconnus comme Anne de son côté était une imitation assez grossière du service anglican qui nous était familier dans notre enfance. Le vieux protestant qui sommeille en moi dans sa foi catholique se réveilla tout à coup devant l'évidente et absurde imposture que nous offrait l'écran, et cette étrange cérémonie ayant pris fin, je demandai simplement à ma sœur « Pourquoi nous sommes-nous convertis ?» Eh oui, c'est le témoignage de deux protestants, enfin l'un est converti, c'était Julien Green, l'autre pas à ma connaissance, enfin je ne connais pas, et on a quand même la preuve que cette nouvelle messe, si elle est étrangement ressemblante aux protestants ou à l'anglicanisme, il y a quand même un problème. Et un problème qu'on ne peut pas laisser de côté, on ne peut pas se dire « oui, mais bon, passons ». Mais non, c'est impossible de dire « passons ». Il en va de notre foi et du culte que l'on rend à Dieu. Comment peut-on rendre un culte agréable à Dieu, même en tant que laïque, avec un rite qui perd toute sa saveur catholique? Donc je vous invite à lire bien sûr ce livre de Mgr Lefebvre, mais aussi un autre livre, parce que là, vous tomberez des nues, celui qui a été écrit par un Michael Davis, et qui a été publié en français tardivement par rapport à ça. Il est écrit en 76, je crois, en anglais, et il a été publié par les éditions Clovis, traduit et publié par les éditions Clovis en 2004, juste avant la mort de Michael Davis, qui est mort au moment où c'était en train de paraître. Ça s'appelle « La réforme anglicane ». Et je vous conseille, si vous restez encore des vacances, de lire cet ouvrage, parce qu'on est donc au XVIe siècle, au moment de la réforme d'Henri VIII, et Michael Davis va montrer comment on a réussi à faire passer en l'espace de 30 ans, auprès d'une population authentiquement catholique, un rite authentiquement protestant. Alors évidemment, ils avaient les moyens, c'est-à-dire que le roi a fait violence, a parfois donc persécuté, mis des amendes, emprisonné, confisqué les biens. Alors évidemment, ça fait convertir assez vite ce genre de choses. Nous n'avons pas eu ces persécutions violentes en tant que laïcs, je parle de moi quand j'étais plus jeune, mais les prêtres, ici en France et partout, ont été persécutés et ont eu aussi des choix à faire. Vous gardez votre presbytère ou vous allez à la porte, dehors. Ça est arrivé de nombreuses fois. Ou bien on vous interdit de célébrer la messe ancienne, sinon vous n'avez plus vos fidèles, vous n'avez plus votre troupe scout, vous n'avez plus ci, vous n'avez plus ça. On vous enlève tout ce que vous faisiez comme ministère. Alors, il y a la faiblesse humaine, hein. Il ne faut pas cracher dessus. Et donc, alors je vous invite à lire ce livre, « La réforme anglicane » de Michael Davis, D-A-V-I-E-S. C'est publié chez Clovis. Il faut, encore une fois, vous former sur cela. Voilà, il n'y a pas de méditation, bien sûr. Vous gardez le silence et vous attendez le prochain rendez-vous qui est le repas. Attention, il est avancé.